mot de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre enquête sur la culture générale, basée sur mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre 6, « Psychomachie ou le combat de l'âme ». Lors de la dernière émission, nous avions envisagé la bipolarité anthropologique fondamentale que Jung a définie quand il oppose l'extraversion et l'introversion. Alors, je pense que on peut continuer justement la réflexion sur ce thème en donnant des exemples. Il faut savoir rêver sur les images dont se nourrissent les cultures. Je pense ici au personnage de la comédie italienne, à Pierrot par exemple, qui est habillé de blanc, qui est enfariné, qui est lunaire et qui possède les fameux secrets de la nuit, et Arlequin au contraire, qui est solaire et diurne, qui est habillé de couleurs vives et éclatantes, qui séduit, qui subjugue et éclabousse tout le monde autour de lui. Alors Colombine est partagée entre Pierrot et Arlequin. Elle est tentée par Arlequin, elle est séduite par lui, mais elle revient finalement à Pierrot, dont la pâleur ou l'insignifiance ne sont qu'une apparence. En fait, c'est Pierrot qui possède les secrets de l'essentiel. Il connaît le moins profond, tandis qu'Arlequin est prisonnier du jeu et des masques sociaux. Colombine, c'est l'âme humaine partagée entre l'introversion et l'extraversion, entre la valorisation de l'inconscient et les sollicitations de la persona. Persona, c'est le masque social que nous portons sur notre figure et qui fait de nous des hypocrites, au sens grec du mot hypocrites, qui veut dire acteur, vous voyez. Alors, c'est Michel Tournier qui a raconté cette histoire à l'attention des enfants dans Pierrot ou les secrets de la nuit. Et cette opposition est centrale aussi dans le film de Marcel Carné, Les enfants du paradis, puisque le personnage de Garance, joué par Arletty, est partagé entre Baptiste, qui est joué par Barrault, Jean-Louis Barrault, et Frédéric, qui est joué par Pierre Brasseur, exactement comme Colombine est partagée entre Pierrot et Arlequin. Alors, il est de la plus haute importance, me semble-t-il, que chacun reconnaisse à quel type psychologique il appartient, ou plutôt à quelle orientation dominante il se rattache. Car plus que des types, introversion et extraversion sont des tendances psychologiques qui existent toutes deux en chacun de nous. Ce que l'on appelle type, ce n'est qu'une prévalence. Par exemple, quelqu'un qui se reconnaît introverti aura, avec quelqu'un de plus introverti que lui, un comportement extraverti. Donc ces notions sont totalement relatives. Et ces tendances ne sont pas immuables, elles peuvent changer tout au long de la vie. On peut être moins introverti dans l'âge mûr que dans l'adolescence, ou bien l'inverse. L'enfant, en général, est davantage extraverti. Puis vient une phase de repliement ou d'introversion que l'on appelle narcissique, dont on ne peut pas faire l'économie et qu'il faut savoir respecter. Mais évidemment, et hélas, cela n'est pas admis par tous. Il suffit de voir comment l'école, en Occident, traite les élèves introvertis. Comment elle les culpabilise ou les pousse à sortir d'eux-mêmes, à s'intéresser aux autres, à participer, comme on dit, aux activités collectives, etc. Il s'agit de les socialiser le plus tôt possible, de les insérer dans le moule commun. Alors, la sagesse serait, me semble-t-il, lorsqu'on a découvert ou détecté à quelle orientation psychologique préférentielle on se rattache, de développer autant qu'on le peut l'orientation opposée, sans pour autant, bien sûr, nier la précédente, car on se nierait soi-même. Cela permettrait d'élargir la personnalité, et cela aussi éviterait d'adopter une personnalité d'emprunt qui ne correspondrait pas à ce qu'on est au fond de soi-même. Et malheureusement, la pression sociale est telle que l'extraversion seule est valorisée aujourd'hui et non pas l'introversion. Qui fait aujourd'hui attention à ses rêves? C'est une question que je me pose souvent. Cela supposerait faire attention à ses rêves, un certain calme, une certaine disponibilité, l'idée même que les rêves sont importants. Mais non, au contraire, chez nous, le réveil sonne, on va sauter à bas du lit aussitôt et on va courir au devant de l'action. Il y en a même qui se précipitent, aussitôt qu'ils sont réveillés, à faire de la gymnastique. Au contraire, regardez un chat, regardez comment un chat se réveille. Il met très longtemps à se réveiller, il s'étire pendant de longues minutes, il ne commence pas à s'agiter de façon épileptique ou épileptoïde comme nous le faisons. Il faudrait prendre leçon sur cet animal magique. Tenez, je vais faire un petit excursus sur le chat. Le chat, c'est un animal non socialisé, à la différence du chien. Le regard du chat est non finalisé, non intéressé. Il nous scrute, il nous juge et il nous jauge. Et en même temps, il reste lointain et absent. Voyez ce qu'en dit Baudelaire. Je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, claires fanaux vivantes opales qui me regardent fixement. Donc, le regard du chien, au contraire, il est finalisé et intéressé par celui de son maître, par exemple. Il est plein de proximité et de ce qu'on appelle en allemand « l'Einfühlung », l'empathie. Le chat, il est introverti et presque asocial. Il est détaché emblématiquement du pouvoir. Mais le chien, il est du côté de l'ordre dont il peut se faire le gardien. Notez qu'il n'y existe pas de chat policier. Voyez. Donc, et les possesseurs de chiens et de chats n'ont pas la même structure mentale. Alors, je caricature, mais je dirais que les premiers, les possesseurs de chiens, sont de petits fascistes en puissance. Ici, le chien au pied, voilà ce qu'ils disent. Tandis qu'un chat ne se laisse jamais dresser. Et donc, un bon critérium pour apprécier les gens serait de leur demander... Êtes-vous chien ou êtes-vous chat? D'après ce que je viens de dire, eh bien, l'auditeur saura dans quelle catégorie je me classe. Alors, on dit, les chiens ne font pas des chats. Moi, je réponds, hélas, c'est vraiment dommage. Alors là, je vais enchaîner, après introversion et extraversion, sur la notion qui aujourd'hui est en passe d'avoir une audience planétaire, qui est celle du sport, le sport. Tous les comportements dynamiques ou activistes répercutés par les médias, comme le jogging, l'aérobic, le sport en général, sont de type extraverti. Il ne s'agit pas de se retrouver, mais il s'agit véritablement de se fuir, vous voyez. Alors, je sais bien que cette notion peut choquer beaucoup de gens, mais bon, je vais laisser la virgule musicale calmer les esprits et je reprendrai après cette critique du sport. Voilà, alors, bon, qu'en est-il du sport? Il est en train de devenir la culture planétaire, mais dans sa valorisation exclusive, comme dans tout comportement strictement extraverti, le sport implique un matérialisme fondamental. Un proverbe nous dit « une âme saine dans un corps sain »,« mens sana in corpore sano », comme on dit en latin. Alors, on présuppose toujours à partir de ce proverbe que si le corps est sain, l'âme sera saine. Mais pourquoi ne faudrait-il lire cette formule que dans un seul sens? Pourquoi ne peut-on soigner le corps lui-même en soignant l'âme? Et est-ce que l'âme ne peut pas être soigner autrement que par l'étourdissement ou l'oubli momentané de ses propres soucis. Vous voyez, l'intention même du sport, l'idée d'auto-affirmation de l'homme et de performance, l'idée de record qui nous vient des anciens Grecs, voyez les Jeux Olympiques, n'est pas sans danger pour l'âme. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a deux corps, il y a le corps que l'on est, que l'on habite de l'intérieur, et le corps que l'on a, que l'on traite comme on ferait d'une machine dont on veut tirer le meilleur rendement. Le sportif qui cherche la performance n'habite pas son corps, il l'exploite, ce n'est pas le corps qu'on est là, mais c'est le corps qu'on a, qu'il a. Regardez le visage grimaçant de douleur du champion en plein effort, il ne nous donne pas l'idée d'une âme sereine ou joyeuse. Dans un but de rendement, la gymnastique occidentale, par exemple, va proscrire la respiration abdominale, qui est pourtant naturelle et confortable, au profit de la respiration thoracique, qui est totalement artificielle et inconfortable. On nous dit, en gymnastique, il faut rentrer le ventre, s'emplir la poitrine d'air, et la poitrine sera contractée, vous voyez. En fait, on suppose toujours poser sur soi le regard d'autrui. On cherche aujourd'hui la sveltesse, qui seule est valorisée, donc il faut être mince, etc. Regardez au contraire comment le petit enfant respire. Il respire naturellement par le ventre, Et si l'essentiel justement de l'être humain résidait dans son ventre et non pas dans sa poitrine ou dans son cœur, vous voyez, il faudrait passer du cœur au ventre, par exemple, pour reprendre l'expression. Le Japon, par exemple, a développé la notion de hara, H-A-R-A, ou de centre vital situé non dans la poitrine, mais dans le ventre. Notez par exemple que l'expression hara se trouve dans harakiri, c'est-à-dire l'éventration rituelle. Un autre mot en japonais, c'est seppuku. Le hara, il faut être bien dans son ventre, être bien dans son hara. Alors c'est évidemment une position beaucoup plus introvertie, où le corps et l'âme peuvent s'allier, peuvent s'unir, peuvent s'atteler ensemble. Et cet attelage, finalement, définit ce qu'on appelle le yoga. Le yoga, c'est un mot sanskrit qui est apparenté au latin yogum, qui veut dire le joug, d'où l'idée d'attelage. À notre Christ émacié que nous voyons dans nos églises, il faudrait opposer la figure du Bouddha. Le Bouddha, lui, il a un ventre proéminent, il est ventripotent, donc il est bien dans son ventre. Et regardez aussi le glissement de sang sur le mot embonpoint. À l'origine, embonpoint signifiait en bon état, être en bon état, embonpoint, bon, dans une bonne assiette, non, dans son ventre éventuellement. Mais aujourd'hui, le mot embonpoint est devenu péjoratif. Quelqu'un qui a de l'embonpoint, il est trop gros, il faut qu'il fasse du sport, etc. pour maigrir, vous voyez. Alors, il faut donc changer nos repères. Je pense que le sport occidental montre bien la pathologie de l'extraversion occidentale qui consiste à traiter le corps comme un instrument subordonné pour s'auto-valoriser et éblouir les autres. Le corps est monture à fouetter, bien sûr, et d'autre part, objet d'admiration. Celui qui fait du culturisme, du bodybuilding, voilà. Bon, je dis souvent 0% de matière grise, vous voyez, 0% de matière grise. Parce qu'il faut, quand même, regardez, jamais un homme n'atteindra la beauté d'un animal, un tigre, un guépard, un lion, ceux-là sont beaux, aérodynamiquement profilés pour courir, etc. Mais jamais un homme, si beau soit-il, n'aura dans ses cheveux la chevelure du lion, ou la rapidité du guépard, vous voyez, dans son allure. Bon, alors, tout ce que je viens de dire signifie un esprit pour lequel le quantitatif passe avant le qualitatif. C'est comme disait René Guénon, le règne de la quantité ou les signes des temps. Alors, une variante du sport, me semble-t-il, c'est la réussite sociale. la performance dans la vie professionnelle, vous voyez. Donc, je pense qu'il faudrait dire, comme à la fois comme Winston Churchill, no sport, hein, comme remède, si vous voulez, pour atteindre la longévité. Et maintenant, la réussite sociale, qui me semble sa variante, hein, doit être contestée, examinée. Pour beaucoup, réussir dans la vie revient à réussir sa vie. Vous voyez, hein, les conquérants, les bâtisseurs d'empires divers, les gagneurs ou les battants dans la vie montrent souvent jusqu'à la caricature où peut mener l'extraversion. Car le tout n'est pas de monter dans la société, mais en montant de rester soi-même, vous voyez, hein. L'important n'est pas d'arriver, mais l'état dans lequel on arrive, vous voyez. Pour monter, il faut écraser les autres, et aussi il faut s'aplatir, il faut grimper. Et alors qu'est-ce que c'est grimper? Grimper, c'est ramper à la verticale, vous voyez. Et donc, la vie dans cette perspective n'est qu'un jeu de miroir. C'est d'une image qu'on est prisonnier, non pas une réalité que l'on touche, vous voyez. C'est le règne de la frime, ou du look, comme on dit aujourd'hui. C'est perdre sa vie à la gagner, c'est travailler durement pour acheter ce dont on n'a pas besoin, pour épater des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on méprise, vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire grimper? Bon, grimper, monter les échelons. Les pompiers le font, hein, ils montent les échelons. Moi, je crois quand même que il faut, refuser de voir là la norme sociale essentielle. Et alors, on comprend pourquoi quand la culture comme la nôtre, la culture d'une société valorise la réussite sociale, l'art et la création valoriseront le contraire, la mollesse ou le parasitisme, qui sont des contre-modèles. Alors voyez par exemple l'indifférent de Moravia, ou bien le feu follet de Drieux-La Rochelle, ou bien l'étranger de Camus. Voilà des personnages indifférents à la réussite sociale, indifférents à ce jeu de frime et de look dont j'ai parlé. On peut aussi valoriser le nul, le loser ou l'outsider, l'anti-gagneur, vous voyez. Si le modèle social dominant c'est la course ou le coureur, le héros ou bien l'anti-héros de l'art ou de la contre-culture sera hors course, outsider. Le loser, ainsi, c'est l'anti-héros du roman noir. C'est l'envers du mythe positif de la réussite qui est véhiculé dans notre culture. Je pense au roman de David Goodis, etc. Mais beaucoup de polars, justement, jouent sur ce type de personnage. Parce que on se fuit, finalement. L'enjeu est le suivant, hein. Faut-il se retrouver ou vaut-il mieux se fuir, hein. On se fuit dans la réussite sociale. On se fuit dans cette ascension sans fin, hein, qui fait penser à un tonneau des Danaïdes. Les Danaïdes remplissaient leur tonneau qui n'avait pas de fond. Alors, transposons maintenant. Il y a, et nous terminerons là-dessus, hein, il y a une extraversion physique, hein, une extraversion symbolique dans la réussite sociale, il y a aussi une extraversion morale. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'entends par là? Cette extraversion morale, c'est une fuite hors de soi. Même lorsqu'il s'agit de fuir dans l'altruisme et dans la générosité, ou dans ce qu'on appelle l'amour du prochain. Donc, car je pense qu'il y a un certain désintéressement ou un sacrifice qui sont, comme disait Pascal, du divertissement. Divertissement renvoie au latin divertere, c'est-à-dire séparer, éloigner de soi. Regardez combien de gens veulent aimer ou aider les autres, hein, et ne peuvent pas seulement se supporter eux-mêmes. Combien de gens vont ailleurs tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux. Et avant Pascal qui disait « Tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne sait pas demeurer en repos dans une chambre hein, », c'est-à-dire dans la contemplation introvertie de sa propre situation, bien avant Pascal, Sénèque l'avait dit dans les lettres à Lucilius. Hein, il dit à Lucilius « C'est ainsi que chacun se fuit lui-même ». Oxe quisque modo semper fugit. Et il dit à Lucilius, en le mettant en garde contre les voyages, tu fuis avec toi-même, c'est d'esprit que tu dois changer et non pas de ciel. En latin, tecum fugis, animum mutare non caelum. Ce n'est pas là une bonne attitude. L'Évangile, par exemple, dit qu'on doit aimer son prochain comme soi-même et non pas plus que soi-même. Cette parole profonde veut dire deux choses. Premièrement, le maximum d'amour que l'on peut donner à autrui est celui que l'on se porte à soi-même, et il est absurde de prétendre pouvoir donner plus. Et deuxièmement, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut aimer son prochain. Si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie. C'est ce que disait Valéry. Il pensait bien sûr à la formule de Pascal, « le moi est haïssable ». Mais aujourd'hui, une certaine idéologie sociale et son catéchisme humanitaire nous poussent au sacrifice inconditionnel de nous-mêmes. « Aime ton prochain plus que toi-même », voilà ce que l'on nous dit. Alors cela fait le jeu des extravertis et des indiscrets aussi, c'est-à-dire des gens qui ne respectent pas souvent l'intimité des autres. Alors on reproche à l'introversion son nombrilisme, mais c'est confondre deux choses très différentes et quasi opposées, l'égocentrisme et l'égoïsme. L'égocentrisme, évidemment, est un défaut. Un grave défaut, c'est le fait de tout ramener à soi, de ne pas respecter autrui et de le vampiriser. Mais l'égoïsme, lui, c'est la prise en compte de soi, ce n'est pas un défaut. Cette prise en compte de soi est tout à fait légitime. Il faut avoir dans la vie assez d'égoïsme pour résister à l'égocentrisme des autres. Le problème, c'est que beaucoup de gens, par immaturité, restent égocentriques, même quand ils sont altruistes ou désintéressés. Quand ils le disent ou quand ils le croient, comme il y a un altruisme qui vient de la haine de soi, il y a un altruisme égocentrique. Vous savez, la plupart des gens vivent par les autres et pour eux-mêmes, alors qu'ils devraient vivre par eux-mêmes et pour les autres. Beaucoup de gens ont besoin des autres pour se fuir, pour ne pas penser à eux. C'est un état de dépendance qui va réduire l'autre à n'être qu'un objet permettant la fuite hors de soi. Ce n'est pas un véritable intérêt porté à l'autre. Il y a là une mendicité et un chantage affectif. En jouant sur les mots, on pourrait dire que celui qui est dans le soin, dans le care, comme on dit aujourd'hui à partir de l'anglais, ne doit pas s'oublier lui-même. Un soignant ne doit pas être un soignant, c'est-à-dire quelqu'un qui se nie lui-même. Les proverbes le disent, médiquer sanate ipsum, médecin soigne-toi toi-même. Donc le souci de soi, je ne vois pas pourquoi il faudrait le condamner. Alors, quand on traite autrui comme un moyen justement de s'oublier soi-même, on va l'instrumentaliser. Regardez par exemple les annonces matrimoniales ou les annonces de rencontres dans la presse, dans les journaux spécialisés. Vous avez des choses comme « n'en pouvant plus de solitude, cherche l'âme sœur », etc. Donc, si on ne peut pas supporter sa solitude, on va traiter autrui comme un moyen et non pas comme une fin, au rebours de ce que dit Kant. Kant disait, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, qu'il fallait toujours, dans nos rapports avec autrui, traiter autrui comme une fin en soi, et non pas comme un moyen. Donc, on réifie autrui, on en fait une chose, réifier, reste la chose. Alors, si on n'en peut plus de solitude, il vaut mieux autant, je dirais, avoir un chien, un chat, ou un poisson rouge, un animal de compagnie. Il faudrait faire une sociologie de l'animal de compagnie. Il renvoie à une névrose sociale, à l'incapacité d'être seul, à un infantilisme et une immaturité. Et il y a aussi une imposture sur le catéchisme actuel sur la communication. Ce n'est pas une rencontre ou une communion, c'est un désir de se fuir soi-même, car on ne se supporte pas. Aujourd'hui, l'Internet résume tout cela. On n'a jamais autant parler de communication, on n'a jamais autant senti son isolement. Attention, je distingue bien deux choses qui sont très différentes. La solitude et l'isolement. L'isolement est catastrophique, hein, mais la solitude est positive parce qu'elle permet la réunion à soi. Il faut savoir être seul, s'accepter, se faire face à soi-même. C'est ce que dit La Fontaine dans Le songe d'un habitant du Mogol. Hein. Il faut, au rebours de ce que dit l'idéologie sociale de l'Occident, réhabiliter l'introversion ou une certaine introversion. Seul celui qui sait être seul peut s'ouvrir aux autres, s'intéresser véritablement aux autres. La vie en commun suppose résolu le problème de la vie avec soi-même. Jung disait très bien « Ne peut rien pour le bonheur d'autrui, celui qui vit lui-même d'aumône ». Et alors en élargissant, je termine par là, je dirais que la vie politique et sociale tout entière, nous sommes dans une période d'élection législative où la politique justement occupe les esprits. Eh bien, personnellement, je me sens un peu étranger à cela. Je dirais que il y a une évidence élémentaire, c'est que le vrai changement, le changement unique est intérieur. La conversion, ce qu'on appelle en grec la métanoïa, consiste d'abord à se reconnaître et à s'accepter, à dépasser le taedium sui, comme on dit en latin, c'est-à-dire le dégoût de soi. Il faut changer les êtres avant de changer les choses et abandonner la fuite dans la socialisation forcenée. C'est là la vraie révolution. La vraie révolution est mentale. La vie sociale tout entière renvoie la psyché à elle-même. Comme beaucoup de choses, elle est chose mentale, causa mentale, comme disait Vinci à propos de la peinture. Donc Gandhi disait « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde », vous voyez. Jean Guéhenno a eu un admirable mot sur l'amour. Le miracle de l'amour, c'est que quelqu'un encore nous aime quand nous ne nous aimons plus. Il importe donc d'avoir pitié de soi, d'avoir une nouvelle histoire d'amour avec soi-même, un flirt avec soi-même, de se réconcilier avec soi, de s'accepter tel que l'on est au lieu de se fuir. Aime-toi, disait Reverdy, et le ciel t'aimera. Alors écoutez, tout ce que je viens de dire dans cette émission fait la matière aussi de trois de mes livres. Je vous les indique, il s'agit de La source intérieure, qui est paru chez Goliath, éditeur à Lyon, hein, ou bien de Une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, paru chez Dervy, et Méandre de l'amour, Eros et Agapé, l'amour de désir et l'amour de don, qui est paru aussi chez Dervy, dont vous pouvez vous reporter à ses ouvrages pour creuser tout ce que je viens de dire. Et bien sûr, ces belles paroles, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine émission. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.